Chapitre 6. Les antichambres de Monsieur le duc de Richelieu. Désenchantement. Monsieur de Richelieu, comme tous les courtisans, avait un hôtel à Versailles, un à Paris, une maison à Marly, une à Lucienne. Un logement, en un mot, près de chacun des logements des stations du roi. Louis XIV, en multipliant ses séjours, avait imposé à tout homme de qualité, privilégié des grandes ou des petites entrées, l'obligation d'être fort riche pour suivre, dans une proportion égale, le train de sa maison et l'essor de ses caprices. Monsieur de Richelieu habitait donc, au moment du renvoi de messieurs de Choiseul et de Pralin, son hôtel de Versailles. C'était là qu'il s'était fait conduire la veille du retour de Lucienne, après avoir présenté son neveu à Madame du Barry. On avait vu Richelieu au bois de Marly avec la comtesse, on l'avait vu à Versailles après la disgrâce du ministre, on savait son audience secrète et prolongée à Lucienne. C'en fut assez pour que toute la cour, avec les indiscrétions de Jean du Barry, pour que toute la cour, disions-nous, se crût obligée d'aller rendre ses devoirs à Monsieur de Richelieu. Le vieux maréchal allait donc humer à son tour ce parfum de louanges, de flatteries et de caresses que tout intéressé fait brûler sans discernement devant l'idole du jour. Monsieur de Richelieu ne s'attendait pourtant pas à ce qui allait lui arriver, mais il se leva le matin du jour où nous sommes parvenus avec la ferme résolution de calfeutrer sa narine contre le parfum, de même qu'Ulysse bouchait son oreille avec de la cire contre le chant des sirènes. Le résultat pour lui devait arriver le lendemain seulement. C'était en effet le lendemain que serait connue et publiée par le roi lui-même la nomination du nouveau ministère. La surprise du maréchal fut donc grande lorsqu'en se réveillant, plutôt lorsque réveillé par un grand bruit de voiture, il apprit de son valet de chambre que les cours de l'hôtel étaient encombrées, ainsi que les antichambres et les salons. « Oh, dit-il, je fais du bruit, à ce qu'il paraît. »« Il est de bien bonne heure, monsieur le maréchal, » dit le valet de chambre, voyant la précipitation que le duc mettait à défaire son bonnet de nuit. « Désormais, répliqua le duc, il n'y aura plus d'heure pour moi. Souvenez-vous de cela. »« Oui, monseigneur. » »« Qu'a-t-on répondu au visiteur ?»« Que monseigneur n'était pas levé. »« Tout simplement. »« Tout simplement. » C'est une sottise, il fallait ajouter que j'avais veillé tard, ou bien mieux, il fallait... Voyons, où est Rafté? Monsieur Rafté dort, dit le valet de chambre. Comment, il dort? Qu'on le réveille, le malheureux! Allons, allons, dit un vieillard vert et souriant qui parut sur le seuil. Voilà Rafté, que lui veut-on? Toute la boursouflure du duc tomba devant ces paroles. Ah, je disais bien aussi, moi, que tu ne dormais pas. Et quand j'aurais dormi, qu'y aurait-il là d'étonnant? Il est jour à peine. Mais, mon cher Rafté, tu vois que moi, je ne dors pas. C'est autre chose. Vous êtes ministre, vous. Comment dormiriez-vous? Allons, voilà que tu vas me gronder, dit le maréchal en grimaçant devant la glace. Est-ce que tu n'es pas content? Moi, mais qu'est-ce que ça me fait? Vous allez vous fatiguer beaucoup, et puis vous serez malade. Il en résultera que ce sera moi qui gouvernerai l'État, et ce ne sera pas amusant, monseigneur. Oh, comme tu as vieilli, Rafté! J'ai juste 4 ans de moins que vous, monseigneur. Oui, oui, je suis vieux. Le maréchal frappa du pied avec impatience. As-tu passé par l'antichambre, dit-il? Oui. Qui est là? Tout le monde. Que dit-on? Chacun se raconte ce qu'il va vous demander. C'est bien naturel, mais de ma nomination, en as-tu entendu parler? Oh, j'aime autant ne pas vous dire ce qu'on en dit. Ouais, déjà de la critique. Et parmi ceux qui ont besoin de vous, que sera-ce, monseigneur, chez les gens dont vous aurez besoin? « Ah, par exemple, Rafté, dit le vieux maréchal en affectant de rire, ce qui dirait que tu me flattes. « Tenez, monseigneur, dit Rafté, pourquoi diable vous êtes-vous attelé à cette charrue qu'on appelle ministère? Vous êtes donc là d'être heureux de vivre? Mon cher, j'ai goûté de tout, excepté de cela. Corbleu, vous n'avez jamais goûté d'arsenic? Que n'en avez-vous dans votre chocolat, par curiosité? « Rafté, tu n'es qu'un paresseux. Tu devines que toi, mon secrétaire, tu vas avoir beaucoup de besogne et tu recules. Tu l'as dit d'ailleurs. » Le maréchal se fit habiller avec soin. « Donne-moi une tournure militaire, » recommanda-t-il au valet de chambre, « et donne-moi mes ordres militaires. »« Il paraît que nous sommes à la guerre, » fit Rafté. « Mon Dieu, oui, il paraît que nous sommes à cela. » « Ah ça, mais, » continua Rafté, « je n'ai pas vu la nomination du roi, ce n'est pas régulier. Oh, elle va arriver, sans doute. »« Alors, sans doute est le mot officiel aujourd'hui. » « Que tu es devenu désagréable, Rafté, en vieillissant. Tu es formaliste et puriste. Si j'avais su cela, je ne t'aurais pas fait faire mon discours de réception à l'Académie. C'est cela qui t'a rendu pédant. Écoutez donc, monseigneur, puisque nous sommes au gouvernement, soyons réguliers. C'est bizarre. » « Quoi donc est bizarre ? » Monsieur le comte de la Vaudraye, qui vient de me parler dans la rue, m'annonçait que rien n'était encore fait pour le ministère. » Richelieu sourit. Monsieur de la Vaudraye a raison, dit-il, mais tu es donc déjà sorti ? Par Dieu, il le fallait bien, cet enragé vacarme de carrosse m'a réveillé, je me suis fait habiller, j'ai pris mes ordres militaires aussi, j'ai fait un tour par la ville. Ah, monsieur Rafté, c'est gai à mes dépens. « Oh, monseigneur, Dieu m'en préserve, c'est que quoi ? » ?»« En me promenant, j'ai rencontré encore quelqu'un. » »« Qui cela ?»« Le secrétaire de l'abbé Terray. » »« Eh bien ? » ?»« Eh bien, il m'a dit que son maître était mis à la guerre. » »« Oh ! » dit Richelieu avec son éternel sourire. « Qu'en conclut monseigneur ?» Que si Monsieur Terray est à la guerre, je n'y suis pas, et que s'il n'y est pas, j'y suis peut-être. » Rafté avait assez fait pour sa conscience. C'était un homme hardi, infatigable, ambitieux, tout aussi spirituel que son maître, et bien plus armé que lui, car il se savait roturier et dépendant, deux défauts de cuirasse qui, pendant 40 ans, avaient exercé toute sa ruse, toute sa force, toute son agilité d'esprit. Rafté, voyant son maître si bien assuré, crut lui-même n'avoir plus rien à craindre. « Allons, dit-il, monseigneur, hâtez-vous, et ne vous faites pas trop attendre, ce serait d'un mauvais augure. Je suis prêt, mais qui est là encore une fois ? Voilà la liste. » Il présenta une longue liste à son maître, qui lut avec satisfaction les premiers noms de la noblesse, de la robe et de la finance. « Suis-je allé être populaire, hein, Rafté ? » « Nous sommes au temps des miracles, » répondit celui-ci. « Tiens, Tavernet, » dit le maréchal en continuant la lecture, « que vient-il faire ici ?»« Oh, je n'en sais rien, monsieur le maréchal. Allons, faites votre entrée. » Et presque avec autorité, le secrétaire força son maître à passer dans le grand salon. Richelieu dut être satisfait, l'accueil qu'il reçut n'eût pas été au-dessous des ambitions d'un prince de sang. Mais toute la politesse si fine, si habile, si cauteleuse de cette époque et de cette société servit mal le hasard qui ménageait à Richelieu une dure mystification. Par convenance et par respect de l'étiquette, toute cette foule s'abstint de prononcer devant Richelieu le mot « ministère ». Quelques-uns, plus hardis, allèrent jusqu'au mot « compliment ». Ceux-là savaient qu'il fallait glisser légèrement sur le mot et que Richelieu n'y répondrait qu'à peine. Pour tout le monde, cette visite faite au lever du soleil fut une simple démonstration, comme un souhait, par exemple. Il n'était pas rare à cette époque que les insaisissables nuances fussent comprises par des masses et à l'unanimité. Il y eut quelques courtisans qui se hasardèrent dans la conversation à exprimer un vœu, un désir, une espérance. L'un aurait aimé, disait-il, voir son gouvernement plus rapproché de Versailles. Il se plaît à causer de cela avec un homme d'un crédit aussi grand que celui de monsieur de Richelieu. Un autre prétendait avoir été oublié 3 fois par monsieur de Choiseul dans les promotions de chevalier de l'ordre. Il comptait sur l'obligeante mémoire de monsieur Richelieu pour rafraîchir celle du roi, à présent que rien ne faisait plus obstacle au bon vouloir de sa majesté. Enfin, 100 demandes, plus ou moins avides, mais toutes enveloppées avec un art extrême, se produisirent aux oreilles charmées du maréchal. Peu à peu, la foule s'éloigna. On voulait, disait-on, laisser monsieur le maréchal à ses importantes occupations. Un seul homme demeura dans le salon. Il ne s'était pas approché avec les autres, il n'avait rien demandé, il ne s'était pas présenté même. Quand les rangs furent éclaircis, cet homme vint au duc avec un sourire sur les lèvres. « Ah, monsieur de Tavernet !» fit le maréchal. « Enchanté, enchanté !»« Je t'attendais, duc, pour te faire mon compliment, et un compliment positif, un compliment sincère. »« Ah, vraiment, et de quoi donc ?» répliqua Richelieu, que la réserve de ses visiteurs avait mis lui-même dans la nécessité d'être discret et comme mystérieux. « Mais mon compliment de ta nouvelle dignité, duc !»« Chut, chut !» fit le maréchal. « Ne parlons pas de cela, rien ne fait, c'est un on-dit. » Cependant, mon cher maréchal, bien des gens sont de mon avis, car tes salons étaient pleins. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Oh, je sais bien, moi. Quoi donc, quoi donc? Un seul mot de moi. Lequel? Hier à Trianon, j'eus l'honneur de faire ma cour au roi. Sa Majesté me parla de mes enfants et finit par me dire « Vous connaissez monsieur de Richelieu, je crois. Faites-lui vos compliments. » « Ah, Sa Majesté vous a dit cela !» répliqua Richelieu avec un orgueil étincelant, comme si ses paroles eussent été le brevet officiel dont Rafté suspectait l'envoi ou déplorait le retard. « En sorte, continua Tavernet, que je me suis bien tenu de la vérité. Ce n'était pas difficile à voir l'empressement de tout Versailles, et je suis accouru pour obéir au roi en te faisant mes compliments, et pour obéir à mon sentiment particulier en te recommandant notre ancienne amitié. » Le duc en était arrivé à l'enivrement. C'était un défaut de nature, les meilleurs esprits ne peuvent pas toujours s'en préserver. Il ne vit dans Tavernet qu'un de ses solliciteurs du dernier ordre. Pauvres gens attardés sur le chemin de la faveur, inutiles même à protéger, inutiles surtout dans leur connaissance, et auxquels on fait le reproche de ressusciter de leurs ténèbres après 20 ans pour venir se réchauffer au soleil de la prospérité d'autrui. « Je vois ce que c'est, » dit le maréchal assez rudement, « on vient me demander quelque chose. » « Eh bien, tu l'as dit, duc. »« Ah !» fit Richelieu en s'asseyant, ou plutôt en s'enfonçant dans un sofa. « Je te disais que j'ai 2 enfants, » continua Tavernet, souple et rusé, car il s'apercevait du refroidissement de son grand ami et ne s'en rapprochait que plus activement. « J'ai une fille que j'aime beaucoup et qui est un modèle de vertu et de beauté. » Celle-là est placée près de madame la Dauphine, qui a bien voulu la prendre dans une estime particulière. De celle-là, de ma belle André, je ne t'en parle pas, duc, son chemin est fait, sa fortune est en bon train. L'as-tu vue, ma fille? Ne te l'ai-je pas présentée quelque part? N'en as-tu pas entendu parler? Je ne sais, dit négligemment Richelieu, peut-être. « N'importe, » poursuivit Tavernet, « voilà ma fille placée. Mais, vois-tu, je n'ai besoin de rien. Le roi m'a donné une pension qui me fait vivre. J'aurais bien, je te l'avoue, quelques revenants bons pour rebâtir Maison Rouge, dont je veux faire ma retraite suprême, avec ton crédit, avec celui de ma fille. » Et fit tout bas Richelieu, qui n'avait pas écouté jusque-là, perdu qu'il était dans la contemplation de sa propre grandeur, et que ce mot « le crédit de ma fille » réveilla en sursaut. « Et ta fille, mais c'est une jeune beauté qui fait ombrage à cette bonne comtesse. C'est un petit scorpion qui se réchauffe sous les ailes de la dauphine pour mordre quelqu'un de Lucienne. Voyons, voyons, ne soyons pas mauvais amis. Et quant à la reconnaissance, cette chère comtesse qui m'a fait ministre va voir si j'en manque au besoin. » Puis tout haut, « continuez, » dit-il avec hauteur au baron de Tavernet. « Ma foi, j'approche de la fin, » répliqua celui-ci, très décidé à rire intérieurement du vaniteux maréchal, pourvu qu'il en obtînt ce qu'il voulait avoir. « Je ne songe donc plus qu'à mon fils Philippe, qui porte un fort beau nom, mais à qui l'occasion de fourbir ce nom manquera toujours, si personne ne l'aide. Philippe est un garçon brave et réfléchi, un peu trop réfléchi peut-être, mais c'est une suite de sa position gênée. Le cheval tenu de trop court baisse la tête, comme tu sais. Qu'est-ce que cela me fait ? Pensait le maréchal avec les signes les moins équivoques d'ennui et d'impatience. Il me faudrait, continua impitoyablement Tavernet, quelqu'un de haut placé, comme toi, pour faire obtenir à Philippe une compagnie. Madame la Dauphine, en arrivant à Strasbourg, l'a fait nommer capitaine. Oui, mais il ne lui manque que 100 000 livres pour avoir une belle compagnie dans quelques régiments de cavalerie privilégiés. Fais-moi obtenir cela, mon grand ami. Votre fils, dit Richelieu, c'est ce jeune homme qui a rendu un service à Madame la Dauphine, n'est-ce pas ? Un grand, s'écria Tavernet, c'est lui qui a forcé le dernier relais de Son Altesse Royale que voulait prendre de vive force du Barry. Ouais, fit en lui-même Richelieu, c'est cela justement, tout ce qu'il y a de plus féroce en ennemi de la comtesse. Il tombe bien, ce Tavernet. Il prend pour titre de grade des titres d'exclusion formelle. Vous ne me répondez pas, duc, dit Tavernet, un peu aigri par l'entêtement du maréchal à garder le silence. Tout cela est impossible, mon cher monsieur Tavernet, répliqua le maréchal en se levant pour indiquer que l'audience était finie. Impossible, une pareille misère, impossible, c'est un ancien ami qui me dit cela. Mais pourquoi pas? Est-ce une raison, parce qu'on est amis, comme vous dites, pour chercher à faire l'un une injustice, l'autre un abus du mot amitié? Vous ne m'avez pas vu pendant 20 ans, je n'étais rien, me voici ministre, vous arrivez. Monsieur de Richelieu, c'est vous qui êtes injuste en ce moment. Non, non, mon cher, non, je ne peux pas vous laisser traîner dans les antichambres. Moi, je suis un ami véritable, par conséquent, vous avez une raison pour me refuser cependant. « Moi ? » s'écria Richelieu, très inquiet du soupçon que pouvait avoir Tavernet, moi, une raison. « Oui, j'ai des ennemis. » Le duc pouvait répondre ce qu'il pensait, mais c'était découvrir au baron qu'il ménageait Madame du Barry par reconnaissance. C'était avouer qu'il était ministre de la façon d'une favorite, et voilà ce que le maréchal n'eut pas avoué pour un empire. Il se hâta donc de répondre au baron. « Oh, vous n'avez aucun ami, mon cher ami, mais moi, j'en ai. Accordé tout de suite et sans examen de titre des faveurs pareilles, c'est m'exposer à ce qu'on dise que je continue, Choiseul. Mon cher, je veux laisser des traces de mon passage aux affaires. Depuis 20 ans, je couvre les réformes, les progrès, ils vont éclore. La faveur perd la France, je vais m'occuper du mérite. » Les écrits de nos philosophes sont des flambeaux dont la lumière n'aura pas été en vain aperçue par mes yeux. Toutes les ténèbres des jours passés sont dissipées, et il était bien temps pour le bonheur de l'État. Aussi examinerai-je les titres de votre fils, ni plus ni moins que ceux du premier citoyen venu. Je ferai ce sacrifice à mes convictions, sacrifice douloureux sans doute, mais qui n'est que d'un homme au profit de 300 000 autres peut-être. Si votre fils, monsieur Philippe de Tavernet, me paraît mériter ma faveur, il l'aura, non parce que son père est mon ami, non parce qu'il s'appelle de son nom, mais parce que ce sera un homme de mérite. Voilà mon plan de conduite. C'est-à-dire votre cours de philosophie, répliqua le vieux baron, qui de rage se rongeait le bout des doigts et appuyait sur son dépit de tout le poids d'un entretien qui lui avait coûté tant de condescendance et de petite lâcheté. Philosophie, soit, monsieur, c'est un beau mot, qui dispense des bonnes choses, monsieur le maréchal, n'est-ce pas ? Vous êtes un mauvais courtisan, dit Richelieu, avec un froid sourire. Les gens de ma qualité ne sont courtisans que du roi. De votre qualité, monsieur Raffeté, mon secrétaire, en a 1000 par jour dans mes antichambres, répondit Richelieu. Et ils arrivent de je ne sais quel trou de province où l'on apprend à être impoli avec ses prétendus amis, tout en prêchant l'accord. Oh, je sais bien, moi, qu'un Maison Rouge, noblesse issue des croisades, n'entend pas aussi bien l'accord qu'un vigneron ménétrier. Le maréchal n'eut plus d'esprit que Tavernet. Il pouvait le faire jeter par les fenêtres. Il se contenta de hausser les épaules et de répondre Vous êtes trop arriéré, monsieur des croisades. Vous n'en êtes qu'au mémoire calomnieux fait par les parlements en 1720, et vous n'avez pas lu celui des ducs et des pairs y faisant réponse. Passez dans ma bibliothèque, mon cher monsieur, Raffeté vous le fera lire. » Et comme il éconduisait son antagoniste avec cette fine partie, la porte s'ouvrit et un homme entra bruyamment en disant « Où est-il, ce cher duc ?» Cet homme enluminé, aux yeux dilatés de satisfaction, aux bras arrondis par la bienveillance, c'était Jean du Barry, ni plus ni moins. À l'aspect du nouveau venu, Tavernet recula de surprise et de dépit. Jean vit ce geste, reconnut cette tête et tourna le dos. « Je crois comprendre, » dit le baron tranquillement, « je me retire, je laisse monsieur le ministre en parfaite compagnie. » Et il se retira fort noblement. Jean, furieux de cette sortie pleine de provocation, fit deux pas derrière le baron, puis haussa les épaules en revenant au maréchal. « Vous recevez cela chez vous ? Mon cher, vous vous trompez, je chasse cela au contraire. » Vous savez ce que c'est que ce monsieur, hélas, oui. Mais savez-vous bien, c'est un Tavernet. C'est un monsieur qui veut mettre sa fille dans le lit du roi. Allons donc. Un monsieur qui veut nous supplanter et qui prend tous les chemins pour cela. Eh oui, mais Jean est là et Jean voit clair. Vous croyez qu'il veut ? C'est bien difficile à voir, n'est-ce pas ? Parti dauphin, mon cher, et l'on a son petit tueur. Bah, on a un jeune homme tout dressé à mordre les mollets des gens, un bretteur qui donne des coups d'épée dans les peaux de Jean, de ce pauvre Jean. À vous, c'est un ami personnel à vous, mon cher vicomte, dit Richelieu, jouant la surprise. Eh oui, c'est mon adversaire dans l'affaire du relais, vous savez. « Ah, mais voyez la sympathie, j'ignorais cela, et je l'ai débouté de toute demande. Seulement, je l'eusse non pas évincé, mais chassé, si j'avais su. Soyez tranquille, vicomte, à présent, voilà ce digne bretteur sous ma coupe, et il s'en apercevra. »« Oui, vous pouvez lui faire perdre le goût des attaques sur le grand chemin, car enfin, voyons, je ne vous ai pas encore fait mon compliment. »« Mais oui, vicomte, il paraît que c'est définitivement fini. » « Oui, tout est fait. Voulez-vous que je vous embrasse ? De grand cœur. Ma foi, on a eu du mal, mais le mal n'est rien quand on réussit. Vous êtes content, n'est-ce pas ? Voulez-vous que je vous parle franc ? Oui, car je crois que je pourrais être utile. N'en doutez pas, mais c'est un fier coup, on va hurler. Est-ce que je ne suis pas aimé dans le public ? Vous, il y a du pour et du contre. C'est lui qui est exécré. « Lui ?» dit Richelieu avec surprise. « Qui, lui ?»« Mais sans doute, » interrompit Jean. « Oh, les parlements vont s'insurger, et c'est une répétition du fouet de Louis XIV. Ils sont flagellés, ils le sont. »« Expliquez-moi. » »« Mais cela s'explique de soi par la haine des parlements pour l'auteur de ces persécutions. » « Ah, vous croyez que... »« J'en suis certain, comme toute la France. »« C'est égal, duc. Vous avez merveilleusement bien fait de le faire venir comme cela, tout chaud. »« Qui ? Mais qui donc, vicomte ? Je suis sur des épines, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. »« Mais je vous parle de monsieur d'Aiguillon, de votre neveu. »« Eh bien, après, eh bien, je vous dis que vous avez bien fait de le faire venir. » « Ah, très bien, il m'aidera, voulez-vous dire. »« Il nous aidera tous. Vous savez qu'il est au mieux avec Jeannette ?»« Bon, vraiment, au mieux, ils ont causé déjà et s'entendent à merveille, je parie. »« Vous savez cela ?»« C'est bien facile, Jeannette est la plus paresseuse dormeuse qui soit. »« Ah, elle ne quitte pas le lit avant 9, 10 ou 11 heures. »« Oui, eh bien... » Eh bien, ce matin, à Lucienne, il était 6 heures au plus, j'ai vu partir la chaise de D'Aiguillon. Hein, 6 heures, s'écria Richelieu, souriant. Oui, du matin, ce matin, du matin, ce matin. Vous jugez que pour être si matineuse que d'avoir donné audience à pareille heure, Jeanne doit être folle de votre cher neveu. « Ah oui, oui !» continua Richelieu en se frottant les mains. « À 6 heures ! Ah, bravo, D'Aiguillon ! Il faut que l'audience ait commencé à 5 heures la nuit, c'est miraculeux. C'est miraculeux, répéta le maréchal, miraculeux en effet, mon cher Jean. Et nous voilà tous trois, comme serait Oreste, Pylade, et encore un autre Pylade. À ce moment, et lorsque le maréchal se frottait plus joyeusement les mains, d'Aiguillon entra dans le salon. Le neveu salua l'oncle d'un air de condoléance qui suffit à Richelieu, sinon pour comprendre toute la vérité, du moins pour en deviner la meilleure partie. Il pâlit comme s'il eût reçu une blessure mortelle. L'idée lui vint tout de suite qu'à la cour, il n'y avait ni amis ni parents et que chacun prend son avantage. « J'ai été un grand sot, se dit-il. Eh bien, d'Aiguillon, fit-il en étouffant un gros soupir. Eh bien, monsieur le maréchal, c'est un fier coup pour les parlements, dit Richelieu en reprenant toutes les paroles de Jean. D'Aiguillon rougit. Vous savez, dit-il, monsieur le vicomte m'a tout appris, répliqua Richelieu, même votre visite à Lucienne ce matin, avant votre nomination, qui est un triomphe pour ma famille. Croyez bien, monsieur le maréchal, à tout mon regret. Que diable dit-il là, fit Jean, qui se croisait les bras. Nous nous entendons, interrompit Richelieu, nous nous entendons. Mais c'est différent, mais moi, je ne vous comprends pas. Des regrets? Ah, mais oui, parce qu'il ne sera pas reconnu ministre tout de suite, oui, très bien. Ah, il y aura un intérim, fit le maréchal, qui sentit au fond de son cœur rentrer l'espoir, cette hôte éternelle de l'ambitieux et de l'amant. Un intérim, oui, monsieur le maréchal. Mais en attendant, s'écria Jean, il est assez payé comme cela, le plus beau commandement de Versailles. Ah, fit Richelieu, percé d'une nouvelle blessure, il y a un commandement. Monsieur du Barry exagère peut-être un peu, dit le duc d'Aiguillon. Mais enfin, qu'est-ce que ce commandement? Les chevaux légers du roi. Richelieu sentit encore la pâleur envahir ses joues ridées. « Oh oui, dit-il avec un sourire dont rien ne saurait rendre l'expression. Oui, c'est bien peu de choses pour un homme aussi charmant, mais que voulez-vous, duc, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a, fût-elle la maîtresse du roi ?» Ce fut au tour de d'Aiguillon à pâlir. Jean regardait les beaux murillos du maréchal. Richelieu frappa sur l'épaule de son neveu en lui disant « Heureusement que vous avez promesse d'un avancement prochain. Mes compliments, duc, mes bien sincères compliments. Votre adresse, votre habileté dans les négociations égale votre bonheur. Adieu, j'ai affaire. Ne m'oubliez pas dans vos faveurs, mon cher ministre. » D'Aiguillon répondit seulement, « Vous, c'est moi, monsieur le maréchal. Moi, c'est vous. » Et saluant son oncle, il sortit, gardant la dignité qui lui était naturelle, et se sauvant d'une des plus difficiles positions qu'il eût abordées en sa vie, semée de tant de difficultés. « Ce qu'il y a de bon, se hâta de dire Richelieu lorsqu'il fut parti, à Jean, qui ne savait trop à quoi s'en tenir sur l'échange de politesse du neveu et de l'oncle, ce qu'il y a d'admirable dans d'Aiguillon, c'est sa naïveté. Il est homme d'esprit et candide, il sait la cour et il est honnête comme une jeune fille. Et puis il vous aime, comme un mouton. Et mon Dieu, dit Jean, c'est plutôt votre fils que monsieur de Fronsac. Ma foi oui, vicomte. » Et Richelieu répondait tout cela en se promenant avec agitation autour de son fauteuil. Il cherchait et ne trouvait pas. « Un comtesse, murmurait-il, vous me le payerez. »« Maréchal, dit Jean avec finesse, nous allons réaliser à nous quatre ce fameux faisceau de l'Antiquité, vous savez, celui qu'on ne pouvait rompre. »« À nous quatre, mon cher Jean, comment comprenez-vous cela ?»« Mais, ma sœur, la puissance, d'Aiguillon l'autorité, vous le conseil, moi la surveillance. »« Ah, très bien, très bien. » Et de cette façon qu'on vienne un peu entamer ma sœur, je défie tout et tous. Pardieu, fit Richelieu, dont le cerveau bouillait. Qu'on oppose des rivales à présent, s'écria Jean, ivre de ses plans et de ses idées triomphales. Oh, dit Richelieu, en se frappant le front. Quoi donc, cher maréchal, que vous prend-il? Rien, je trouve votre idée de la ligue admirable, n'est-ce pas? « J'entre avec les pieds et les mains dans votre opinion. »« Ah, bravo !»« Est-ce que ce Tavernet demeure à Trianon avec sa fille ? Non, il demeure à Paris. Elle est très belle, cette fille, cher vicomte. Fut-elle belle comme Cléopâtre ou comme ma sœur, je ne crains plus dès que nous sommes ligués. Vous dites que Tavernet demeure à Paris, rue Saint-Honoré, je crois. Je n'ai pas dit rue Saint-Honoré, c'est rue Coq-Héron qu'il demeure. Est-ce que vous avez une idée, par hasard, pour châtier le Tavernet ? Je crois que oui, vicomte, je crois que j'ai une idée. Vous êtes un homme incomparable. Je vous quitte et je disparais pour savoir un peu ce que l'on dit en ville. Adieu donc, vicomte. À propos, vous ne m'avez pas dit le nouveau ministère ? Oh, les oiseaux de passage, Terray, Bertin, je ne sais plus qui, la monnaie de l'aiguillon, enfin, du vrai ministre à journée. Qu'il est peut-être infiniment, pensa le maréchal, en envoyant à Jean son plus gracieux sourire comme caresse d'adieu. Jean partit, Rafté rentra. Il avait tout entendu et savait à quoi s'en tenir. Tous ses soupçons venaient de se réaliser. Il ne dit pas un mot à son maître, il le connaissait trop bien. Il n'appela pas même le valet de chambre, il le déshabilla lui-même et le conduisit à son lit, dans lequel le vieux maréchal s'enfonça aussitôt en grelottant de fièvre après avoir pris une pilule que son secrétaire lui fit avaler. Rafté ferma les rideaux et sortit. L'antichambre était pleine de valets, déjà empressés, déjà aux écoutes. Rafté prit le premier valet de chambre par le bras. « Soigne bien, monsieur le maréchal, dit-il, il souffre. Il a eu ce matin une vive contrariété. Il a dû désobéir au roi. »« Désobéir au roi ? » s'écria le valet de chambre, épouvanté. « Oui, sa majesté envoyait un portefeuille à monseigneur. Le maréchal a su que cela se faisait par l'entreprise de la Dubarry. Il a refusé. Oh, c'est superbe. Et les Parisiens lui doivent un arc de triomphe. Oh, mais le choc était rude et notre maître est malade. Soigne-le bien. » Rafté, après ces quelques mots dont il connaissait d'avance la portée circulative, regagna son cabinet. Un quart d'heure après, tout Versailles connaissait la noble conduite et le patriotisme généreux du maréchal, qui dormait d'un profond sommeil sur la popularité que venait de lui bâtir son secrétaire.